Alors, recours collectif, donc, ça s'appelle maintenant là, une action collective déposée devant la Cour supérieure contre des religieuses qui auraient maltraité des jeunes filles sourdes, muettes, et qui leur auraient fait subir des sévices physiques, psychologiques, des abus sexuels également. On va aller rejoindre l'avocate Jessica Lelièvre. Elle est chez Trudel et Johnston et L'Espérance. Elle représente la Maison des femmes sourdes de Montréal. Bonjour, Maître Lelièvre.
Bonjour.
Résumez-nous la cause, s'il vous plaît.
Bien, rapidement, là, ce pourquoi on entreprend cette action collective, c'est parce que il y a plus de 40 personnes qui nous ont contactées et qui nous ont dit avoir subi des abus sexuels, des abus physiques et des abus psychologiques aux mains des sœurs de la Providence, alors qu'elles étudiaient à l'Institution des sourdes muettes de Montréal.
Maître Lelièvre, est-ce que vous êtes sur haut-parleur? Parce que ce serait préférable de prendre le combiné, ça donnerait du meilleur son, si vous me permettez.
Est-ce que ça va mieux?
Beaucoup mieux. Allez-y, continuez, s'il vous plaît.
Oui, donc c'est ça. On a plus de 40 personnes qui nous ont contactées pour nous faire part d'abus de ce type. Et là, on parle de viol, on parle d'attouchement, on parle de sœurs qui ont frappé des enfants jusqu'à leur en causer des lésions. On parle de graves abus psychologiques. Puis tout ça s'est passé sur une période de plus de 120 ans. C'est ce qu'on allègue dans la procédure et c'est ce qu'on entend démontrer en cours.
120 ans?
Mais donc, 120 ans, c'est la période de temps où l'Institution des sourdes muettes a été en opération à Montréal.
Donc, de quelle année dites-nous? De 1800?
Le gouvernement du Québec là, a repris en ses mains l'enseignement au Québec vers les années vers 75. Là. Donc, on comprend que ça pourrait s'arrêter vers ces années-là, mais on n'est pas certain encore. C'est plein de choses qui devront être déterminées devant le tribunal.
Mais vous avez des victimes vivantes?
Absolument.
Que vous représentez et qui ont été soit violées, soit touchées, soit frappées et qui vivent encore aujourd'hui avec des séquelles?
Exactement.
Ça... Je trouve ça troublant. Comment vous avez découvert ces actes-là? Est-ce que ce sont des victimes qui ont levé la main? Comment c'est arrivé? Ouais.
Ça prend beaucoup de courage, je pense, pour témoigner d'avoir subi ce genre de sévices, surtout alors qu'on était enfant, alors qu'on était à notre plus vulnérable. Puis les sœurs qui prenaient soin de ces enfants-là, pour certaines, c'était la seule famille qu'elles avaient. Elles dormaient là, elles restaient là à longueur d'année. Donc, je pense que c'est important de saluer le courage des personnes qui vont de l'avant. Puis c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont trouvé le courage en elles de parler. Elles se sont adressées à nous. Nous, chez Trudel Johnson, l'Espérance, ça fait plusieurs années qu'on fait de l'action collective. On le fait avec succès plus que n'importe qui au Canada. Donc, on est très fiers d'avoir été choisis par elles pour prendre cette cause-là, là, puis les supporter à travers ce processus.
Là, on parle, quand vous dites de très jeunes là, enfants, là, on parle d'enfants, de, je pense, dans certains cas, qui avaient 5 ou 6 ans, non? Des très, très jeunes pensionnaires, là.
Exactement, oui. On parle d'enfants, en fait, d'âge scolaire, là, de maternelle, primaire, secondaire. Selon les faits qu'on a allégués dans la procédure, ça commence dès l'âge de 5 ans, en effet.
Et c'était, dans tous les cas, des pensionnaires? Donc, des jeunes filles qui demeuraient sur place, qui dormaient sur place?
Le groupe qu'on entend représenter, c'est les élèves et les pensionnaires. Donc, nous, on est au tout début là, du processus. On vient de déposer la demande d'autorisation pour exercer l'action collective. Nous, ce qui est le plus important en ce moment, c'est que les personnes qui ont subi ce genre d'abus-là, qu'elles nous contactent, qu'on puisse échanger ensemble, puis qu'on puisse connaître leur histoire, qu'on puisse être là pour elles et eux. On sait qu'il y a beaucoup de femmes, ça se pourrait qu'il y ait des hommes aussi, on le sait pas. Mais c'est ça, on est là pour eux, puis c'est ce qui, je pense, est le plus important.
Est-ce que la communauté des sœurs de charité de la Providence et la communauté des sœurs de la Providence, est-ce qu'elles ont, je veux dire, vous avez porté ces faits-là à leur attention, j'imagine? Est-ce qu'elles ont nié les faits? Quelle a été leur réaction?
On n'a pas reçu de réaction là, de leur part à ce moment-ci. C'est comme je disais, c'est le tout début du processus judiciaire, donc elles auront l'occasion de le faire là, prochainement.
OK. Mais ça existe encore. Cette communauté-là est encore active, là.
Absolument, absolument.
OK. Et on pense que ça peut aboutir quand, ce procès-là? Parce que j'imagine que certaines des victimes, Maître Lelièvre, doivent être assez âgées, non?
C'est fort possible. Il y a tellement d'impondérables dans le système de justice que c'est difficile de donner des dates précises. Ça va dépendre beaucoup aussi de la congrégation, de la communauté des religieuses. Si elles veulent tourner la page sur cette histoire-là et le faire rapidement, à leur bénéfice, mais aussi à celui des membres, et en fait surtout pour le bénéfice des victimes, ça pourra se faire rapidement, mais par contre, si elles décident de prendre la voie du litige, puis de contester l'action en justice jusqu'au bout, comme elles ont effectivement le droit de le faire, évidemment. Mais ça pourrait engendrer des délais plus longs.
Et les gens qui vous écoutent, il y a peut-être des victimes, là, des personnes qui ont des parents qui ils vous écoutent et puis ils ont, je sais pas moi, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un ami qui a fréquenté peut-être ce pensionnat. Oui. Et cette maison des femmes sourdes de Montréal, là, c'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, c'était dans le temps, il l'appelait l'Institut des sourdes muettes de Montréal. Hein. C'était le.
Exactement. Je sais que les femmes sourdes n'aiment pas qu'on ajoute le muet à la fin. Elles ne sont pas muettes pour la plupart. Oui. Mais c'est ça. En fait, le pensionnat s'appelait l'Institution des sourdes muettes de Montréal. Éventuellement, changer son nom simplement pour l'Institution des sourdes de Montréal.
D'accord.
Puis là, il y a un organisme à but non lucratif qui est la Maison des femmes sourdes de Montréal, qui est l'OSBL avec qui on fait affaire, qui représente ces femmes-là.
Alors, s'il y a des victimes qui souhaitent se joindre à l'action collective, elles peuvent le faire comment?
Absolument. Ben, en fait, qu'elles entrent en contact avec nous, si elles le veulent, c'est pas nécessaire à ce moment-ci. Il y a rien à faire là, pour être membre de l'action collective. Si le tribunal autorise l'action collective, toutes les personnes qui sont dans cette situation-là vont être automatiquement membres, à moins de décider de s'en exclure.
D'accord.
Donc, simplement, allez sur notre site web, appelez-nous, écrivez-nous. Vous pouvez aussi contacter la Maison des femmes sourdes de Montréal. Elles sont là pour vous aider, pour vous appuyer. Mm-hmm. Puis, on pourra faire ce bout de chemin-là ensemble.
Jessica Lelièvre, donc avocate au cabinet Trudel, Johnston et L'Espérance, donc qui représente la Maison des femmes sourdes de Montréal. Merci, bonne chance.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir, on s'en va à la pause au retour. On va parler de cette affaire qui nous brise le cœur. À nouveau, un autre féminicide, le 12e cette année. On va parler à la mairesse de Contrecoeur qui a bien connu la victime, Lisette Corbeil.